Voilà, bonsoir, bienvenue. Je suis Bruno Sainteau, responsable du département éthique biomédicale au Centre Sèvres, jésuite. Et je suis très heureux de vous accueillir ce soir, très heureux aussi d'accueillir nos invités, nos intervenants, pour cette conférence intitulée « Quel système de santé demain? Choix éthiques et enjeux politiques des nouvelles technologies ». On pourrait dire que cette conférence s'inscrit dans la perspective des états généraux de la bioéthique, mais en abordant les questions de manière plus large, c'est-à-dire beaucoup plus large, comme ce qui conditionne la réponse à un certain nombre d'autres questions, le début de vie, la fin de vie, l'intelligence artificielle, la robotique en santé, etc. Donc je pense que cette conférence, en tout cas pour moi, à mes propres yeux, elle est absolument fondamentale pour traiter les sujets de bioéthique aujourd'hui dans le cadre des états généraux de la bioéthique. C'est une question qui a beaucoup d'actualité. Je lis un certain nombre d'articles qui concernent l'hôpital, les structures hospitalières. Aujourd'hui est paru un rapport sur la situation des EHPAD. Il y a déjà des articles dans Le Monde ce soir. Et cette situation est plutôt préoccupante, on pourrait dire, même très préoccupante. Évidemment, comment ne pas penser que ça va conditionner toutes les réflexions sur la fin de vie, évidemment. Un article aussi sur l'hôpital, une lettre adressée à Martin Hirsch, hôpital, non à la dictature du chiffre, on l'a paru le 13 mars. Faut-il cesser de soigner les exclus pour éviter d'en arriver là et maintenir la qualité de l'offre? Il faut accorder aux structures les moyens d'investissement et autoriser des prêts à taux zéro. Une adresse à Martin Hirsch, directeur de l'assistance publique à Paris. Voilà, rapport sur les EHPAD. Cri d'alarme sur la situation de l'hôpital, un autre article cette fois dans le journal La Croix de Jean Lacaux Saint-Guilly, pour une bioéthique de la fragilité, qui s'alarme en même temps de l'intrusion des biotechnologies, il parle de l'intrusion, en tout cas des angoisses, ça peut servir, mais en même temps, ces biotechnologies, elles peuvent s'imposer dans le monde et imposer d'autres modes de soins. Et son cri d'alarme, c'est plutôt que ça risque d'imposer une médecine à deux vitesses et de laisser des gens, des exclus à côté des grands progrès techniques. Donc c'est pour vous dire que la conférence ce soir, elle a vraiment une grande actualité. Donc je suis très heureux d'accueillir le professeur Didier Houssin, Antoine Durlemand, et puis aussi Jean-Pic, merci beaucoup. Jean-Pic qui fait partie du petit groupe qui nous aide à organiser ces conférences sur le grand thème médecine, bioéthique et société. Donc je laisse la parole à Jean-Pic qui va introduire mieux que moi cette conférence et puis présenter nos intervenants. En tout cas, grand merci d'être venu jusqu'à nous. C'est vrai qu'on a pris un titre qui n'est pas très, on pourrait dire, un titre qui ne fait pas du buzz, quoi. Parce que nous avons ce soir des intervenants qui sont des intervenants sérieux. Voilà. Pour poser des questions importantes, les intervenants posé et sérieux avec une grande expérience. Donc je les remercie vraiment de nous partager leur expérience avec calme, précision et de temps en temps tranchant. Voilà. Merci beaucoup d'être là.
Merci beaucoup Bruno. Donc il me revient d'abord bonsoir à toutes et à tous. Il me revient de présenter les deux intervenants, de dire quelques mots avant. Alors introduire, c'est dire sans dévoiler, donner envie, c'est un exercice difficile. Pour moi qui ne suis ni médecin ni jésuite, dans ce lieu où il est de bon ton de s'interroger sur l'éthique biomédicale. Alors, nous avions pensé traiter des forces et des faiblesses du système de santé, et puis, non sans raison, les deux intervenants ont suggéré que nous ciblions sur deux thèmes très importants. L'impact des nouvelles technologies et l'utilisation des données massives de santé. Alors, quelques mots sur chacun de ces thèmes qui vont donner lieu à une intervention croisée de Didier Houssin et d'Antoine Durlemann. Il me semble que le premier thème pose la question des limites. Jusqu'où aller dans le progrès et dans la prise en charge des conséquences du progrès, puisque ces nouvelles technologies dites de rupture, ces nouvelles molécules ont un coût. Et de l'autre côté de la Manche, par exemple, on pratique des évaluations médico-économiques où on conditionne le remboursement en fonction des gains d'espérance de vie. Et donc la question qui est posée, c'est jusqu'où aller dans cette situation au regard du principe d'égalité des soins. Et qui doit décider sur quels critères? Et en même temps, il n'est pas illégitime, pour le bénéfice de tous, de s'interroger sur ce qui permettrait, par une limite des prises en charge, de satisfaire d'autres besoins de plus en plus criants. On a cité il y a un instant les EHPAD et leur sous-encadrement, mais on pourrait aussi parler des maladies chroniques. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, sur lequel je pense que nos deux intervenants interviendront aussi de manière très, très précise, c'est la question de l'emploi des données de santé. La France a beaucoup de faiblesses, dit-on, elle a un atout, c'est qu'elle a un système unique au monde de recueil de données et qui, par leur disponibilité, pourrait guider la définition de parcours de soins et permettre de guider aussi les politiques de santé. C'est sur ce point que nos deux intervenants pourront nous éclairer. Mais alors, question de l'accès, où sont, que deviennent dans cette utilisation massive de données de santé, les principes très fondamentaux de notre droit, le consentement, l'anonymat, l'indisponibilité du corps? Quelles limites et qui décide toujours? Et donc, il nous semble que derrière la dimension technique de ces sujets, il y a un enjeu éthique et politique. Éthique et politique. Est-ce que notre système ne risque pas, sous la pression des contraintes qui sont les leurs, les siennes, de changer de registre? La sécurité sociale, fondée en 1945, était sur un principe universel. L'idée étant de protéger tous et d'abord les plus faibles. Est-ce que un système qui conduit à privilégier, dans un souci d'efficacité, on le disait il y a un instant, les nouvelles technologies, de réfléchir à l'optimisation des parcours de soins, ne risque-t-il pas en effet de créer une exclusion? Donc il y a une question anthropologique. Est-ce que le patient est un objet de soins pour soumis au savoir des experts, j'allais dire au pouvoir des médecins, ou est-ce qu'il reste un sujet? Et comment ce sujet doit-il être traité? Et j'ai été frappé, peut-être comme ceux d'entre vous qui ont pu lire cette tribune, de ce chirurgien ORL, cancérologue de l'hôpital Tenon, et qui s'alarme de la situation qui conduirait à ce que les plus pauvres, les patients dont il parle, ceux qu'il appelle les oubliés de la croissance, les sans-voix, se trouvent en dehors de ce processus du toujours plus. Et donc il oppose, et il me semble que c'est ça qui pourrait être le cœur de notre débat ce soir, ce qu'il appelle une bioéthique du possible, tout est possible, et une bioéthique des limites. Avec cette idée que ce qui devrait nous inspirer dans cette réflexion, ce sont, je le cite, nos frères humains les plus fragiles, parce que l'éthique de protection des plus faibles est une tâche urgente. Voilà comment je définirai ce qui peut être le lieu de ce débat. Alors, nous avons, comme l'a dit Bruno, la chance de pouvoir compter sur deux experts qui font autorité. Ils sont tous les deux membres de l'Académie de médecine et ils vont apporter des regards croisés. Le professeur Didier Houssin, qui est à ma droite, chirurgien hospitalo-universitaire, professeur de chirurgie digestive, ancien directeur général de l'Institut français des greffes pendant près de 10 ans, ancien chef de service à Cochin et ancien directeur général de la santé au ministère de la Santé de 2005 à 2011. Donc c'est à la fois un regard médical et politique dans la mesure où ses responsabilités le conduisaient à éclairer les pouvoirs publics. Et donc nous le remercions beaucoup de venir nous apporter sa vision sur ces deux sujets. Alors, à ma gauche, Antoine Durleman, qui est président de chambre à la Cour des comptes, ce qui nous semble, tous les deux, qui a été ancien directeur général de la PHP et qui, pendant 7 ans, a présidé une chambre, la chambre de la Cour des comptes, qui produit le fameux rapport annuel sur les lois de financement de la sécurité sociale, qui est à la fois un passage obligé devant le Parlement pour rendre compte de l'état de la sécurité sociale, mais qui est complétée par toute une série d'analyses sur les grands sujets de santé et de santé publique, et comme par exemple les politiques de lutte contre le tabagisme ou la biologie médicale, pour ne citer que des exemples auxquels j'ai été associé. Antoine a présidé cette chambre avec autorité pendant près de 7 ans. C'est un observateur engagé et il nous livrera également un regard très pointu, très acéré sur ces deux sujets. Je vais leur donner la parole chacun pour une vingtaine de minutes. Et puis, vous êtes nombreux, tous âges, ce qui nous réjouit. Et je ne doute pas que ces questions essentielles susciteront de votre part des interventions ou des questions auxquelles les deux intervenants se proposeront de répondre, bien sûr. Je laisse donc la parole à Didier Houssard. Merci beaucoup, Didier, puisqu'il évoque des principes fondamentaux de notre vie commune, liberté, fraternité, solidarité, justice, et il s'interroge sur qui en est en charge. Qui peut en être chargé dans un système qui, chez nous, considère que l'État est l'arbitre, alors que dans d'autres, on préfère faire confiance à des organismes privés, indépendants. Donc, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions sur ce point. En tout cas, merci de nous éclairer avec cette idée qu'au fond, on ne part pas de rien, que nous avons déjà une expérience éclairante sur ces questions de limites et d'accès, et qu'on peut donc construire, à partir de ces règles, des dispositifs qui répondraient aux nouveaux enjeux que borde avec les technologies de rupture et les big data, pour reprendre l'expression que vous avez employée. Donc, le temps est venu maintenant d'entendre Antoine Durleman, alors je lui passe la parole. Prenne son temps, nous ne sommes pas en retard, donc tout va bien. J'ai oublié d'indiquer, pardon, avant que je donne la parole à Antoine, que notre professeur Didier Houssard, le professeur Didier Houssard vient de publier vraiment, il y a quelques jours, c'est un livre chez Odile Jacob, Soignons la science, qui marque bien l'idée qu'il y a un croisement nécessaire au cœur de ces deux thèmes. Antoine, je te passe la parole.
Merci beaucoup. L'innovation n'est pas neuve, mais le temps, lui, est neuf. Ce qui, aujourd'hui, caractérise l'irruption du progrès, des nouvelles technologies dans notre système de soins, c'est son importance, sa rapidité et sa coïncidence, qui au fond amène à un contexte assez différent de celui qu'on a pu connaître dans le passé, où ce qu'on appelait les innovations de rupture, ce que certains aujourd'hui appelleraient des disruptions, ces innovations de rupture se succédaient finalement à intervalles qui permettaient de les absorber, et qui permettait à la fois au système de soins, à la société tout entière, de s'y acculturer progressivement. Je crois que le grand changement que nous vivons, c'est à la fois l'accélération, la simultanéité et l'importance des progrès qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Et ce contexte modifie évidemment de manière très forte la manière dont on peut considérer son impact, son incidence sur le système de soins et d'ailleurs plus largement sur notre protection sociale. C'est pour ça que nous avons choisi au fond ces deux thématiques qui peuvent donner le sentiment qu'elles ont peu à voir l'une avec l'autre. L'arrivée prochaine de nouvelles molécules très innovantes, qui sont, selon l'expression du laboratoire pharmaceutique, dans les pipelines, mais qui vont déboucher très vite. Et puis, ce mouvement qui est à l'œuvre de digitalisation, de numérisation et de diffusion des données de santé, qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. Ce qui lie en réalité ces deux types d'innovation, c'est qu'elle pose l'une ou les unes et les autres les mêmes questions à notre système de soins, à notre protection sociale. Comment concilier un intérêt individuel et un intérêt collectif dans un système de soins solidaire? Comment faire en sorte que la technique ou la technologie n'oblitère pas la personne et au fond derrière, quelle est la finalité même de ces progrès technologiques. Derrière, c'est une question qui ne vaut pas évidemment uniquement pour la protection sociale et le système de soins. C'est une question qui embrasse notre société tout entière. Et si vous le permettrez, je mettrai de ce point de vue mon exposé sous les auspices de Jacques Ellul, philosophe bordelais, qui est un peu oublié en France, mais très lu ailleurs, et qui a été le philosophe de la technique. Et pour reprendre le titre de l'ouvrage qu'il a fait paraître il y a juste 40 ans, un peu plus de 40 ans, en 1977, « Le penseur du système technicien ». Penseur, en réalité, d'une grande anticipation et donc d'une grande actualité. J'y reviendrai en conclusion de mon propos. Sans coquetterie empruntée aux rhéteurs grecs, qui avaient l'habitude d'inverser l'ordre qui leur était donné, selon une technique qu'ils appelaient hystéron-protéron, le dernier vient en premier. Je vais néanmoins commencer par vous parler des molécules onéreuses et je terminerai par ce qui, à mon sens, est bien plus essentiel, la problématique des data, des données de masse liées aux données individuelles de chacun d'entre nous. Les molécules innovantes, en réalité, ne posent un problème, non pas par leur innovation, mais par les modalités de fixation de leur prix. Et c'est en cela qu'elles posent à notre système de soins et à notre système de protection sociale des questions qu'il n'a pas été en situation jusqu'à maintenant d'aborder. Au fond, il y a eu, au tournant des années 2000, un très grand changement dans la vision stratégique des laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques sont nés, vous le savez, largement de la chimie et ont développé au cours des décennies une vision stratégique qui visait à chercher et à trouver des molécules permettant de couvrir les populations les plus larges possibles. Et au fond, leur modèle économique était lié au volume des produits qu'ils pouvaient apporter au système de soins des différents pays. Et ces volumes étaient tels qu'ils permettaient d'amortir, dans des conditions très satisfaisantes, les coûts de recherche, les coûts de distribution et les coûts de fabrication, avec une marge qui permettait d'investir sur de nouvelles recherches. Ce modèle a été mis à mal, peut-être parce qu'il y a eu une moindre fécondité inventive, aussi parce que l'arrivée des génériques a bousculé en réalité ce modèle économique. L'effet de rente, qui était lié à la spécialité diffusée sur de larges volumes, a reculé devant la générication de ces molécules qui ont donc été achetées à bas prix par le système de soins et pour lequel ça a été une économie importante. Mais qui dit économie importante dit déséquilibre du modèle de financement des laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques ont alors changé de modèle et ils sont passés finalement à d'autres modèles, d'abord en type de recherche, ils sont passés finalement la chimie à la biologie, en cherchant finalement de nouveaux types de produits dans un monde totalement différent, qui est le monde du vivant. Et pour cela, et pour rattraper leur retard, en rachetant à des sommes absolument considérables, des petits laboratoires qui avaient pris cette direction bien avant eux. Et au fond, ils ont à la fois accru leur coût de structure par le rachat de ces petits laboratoires et en même temps, parce que c'était des petits laboratoires de niche, se sont orientés vers des populations très limitées. Là où auparavant l'ambition était d'avoir la population la plus large de patients, l'ambition a été d'aller sur des créneaux de niche sur des populations relativement limitées, là où en fait la générication aurait le moins de risque. Et ce déplacement de modèle s'est traduit par un changement complet dans les termes de la négociation des prix des médicaments. Là où auparavant le prix des médicaments c'était finalement une sorte de remise sur quantité à partir d'une expertise des coûts de recherche et de développement, les laboratoires pharmaceutiques à partir à peu près de 2005 ont changé d'optique et ont fixé leur prix en fonction de leur appréciation de la capacité à payer des systèmes de protection sociale. Et au fond, ils ont considéré que dans les pays riches, il fallait maximiser absolument leur avantage comparatif, donc maximiser leur prix, et qu'en revanche, sur des pays moins fortunés, ils pouvaient consentir finalement une sorte de pro bono, c'est-à-dire mettre le médicament à disposition dans des conditions moins chères. Les systèmes de protection sociale n'ont pas vu ce changement de stratégie et ça a été en 2014 avec l'arrivée du sofosbuvir, c'est-à-dire une nouvelle molécule contre l'hépatite C, un choc considérable pour l'ensemble des systèmes de protection sociale. Parce que cette molécule a été proposée à 70 000 euros la cure, niveau qui n'avait jamais été atteint, qui était le niveau en réalité où le laboratoire estimait qu'il pouvait rentrer dans ses frais. Cette situation est une situation, je vais revenir sur la manière dont on a pu traiter ce sujet, mais cette situation était une situation qui va se multiplier dans les années qui viennent, notamment en matière de cancérothérapie. Il y a actuellement, on dit 250, 300 molécules extrêmement innovantes qui vont arriver sur le marché, qui vont permettre sur des types de cancers particuliers pour des durées de vie en bonne santé ou en moins mauvaise santé relativement limitées, d'apporter malgré tout un progrès. Certaines de ces molécules sont actuellement prises en charge en Grande-Bretagne à hauteur de 500 000 euros le traitement. Et on estime que le traitement donc, de ces molécules aura effectivement un prix médian de 500 000 euros pour une échelle qui ira de 250 000 euros à 1 million d'euros. Donc ce qu'on a vu avec le Solvadi, avec le sofosbuvir pour l'hépatite C, c'est simplement quelque chose d'avant-coureur. Et ça n'est pas la dynamique qui va être à l'œuvre dans les années qui viennent. Cet impact-là, on voit qu'il est tel qu'au fond, les modes de régulation qui ont été mis en œuvre jusqu'à maintenant vont absolument exploser. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les modes de régulation qui ont été mis en place dans d'autres pays, qui est de dire au fond, on n'accepte pas de payer parce que les gains de vie sont insuffisants, ils sont trop pelliculaires pour que ça justifie une prise en charge collective, et quelque chose qui n'est pas acceptable dans notre pays. Donc, ça veut dire que l'arrivée de ces nouvelles molécules doit, au fond, changer le mode de fixation des prix pour qu'il y ait un rééquilibrage dans le pouvoir de négociation. Si jusqu'à maintenant, un pays comme le nôtre, avec 65 millions d'habitants, un système de protection sociale très construit, de très bonne qualité, a pu négocier avec des laboratoires mondialisés, aujourd'hui, il ne peut plus le faire seul. Et ça pose donc la question d'un changement de dimension, qui est de dire qu'un certain nombre de nouvelles technologies ne peuvent plus se négocier individuellement d'un pays à l'autre, mais doivent se négocier en réalité collectivement, en particulier au niveau européen. Parce que les laboratoires jouent en effet la course des Horace et des Curias. Ils s'organisent pour dire à un pays, mais tel autre a consenti tel prix, et donc vous pouvez bien faire un effort. Alors, ce que la France a réussi entre 2014 et 2016 dans sa capacité à procurer aux patients atteints d'hépatite C ces médicaments n'est pas reproductible. Notre pays a suivi la stratégie que Didier Houssin évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire au fond considérer qu'il fallait progressivement, sur une période temporaire, réussir à concilier accès et maîtrise des finances publiques. L'accès a été d'abord donné aux patients atteints d'hépatite C aux formes les plus graves, parce qu'on savait que c'était d'abord là que ce médicament serait le plus efficace. Et puis, dans un deuxième temps, il a été convenu d'élargir l'accès à ce médicament et en contrepartie de demander au laboratoire une baisse de prix avant de généraliser l'accès à l'hépatite C. En quelques années, cette stratégie a permis donc de couvrir les 230 000 patients en France atteints d'hépatite C et de faire baisser le prix jusqu'à de l'ordre de 20-21 000 euros. Et notre pays est le pays d'Europe qui couvre le mieux les patients de l'hépatite C. En Grande-Bretagne, il y a eu un refus total de prendre en charge ce médicament. Il y a seulement 2% des patients atteints d'hépatite C qui sont couverts, alors qu'en France, ils le sont tous. Donc c'est un changement de paradigme, en réalité, qui montre que c'est moins le caractère héroïque, innovant du médicament que la stratégie des laboratoires qui pose problème à notre système de protection sociale. Et rétablir une égalité ou une meilleure égalité dans la négociation, ça veut dire en réalité avoir un dispositif qui soit un dispositif qui monte au niveau de l'Europe. C'est d'ailleurs ce que les pouvoirs publics ont commencé à proposer à la fin de 2016 à nos voisins européens. C'est évidemment un enjeu considérable, parce que sinon, jusqu'à quand la solidarité résistera-t-elle? C'est la question que l'on posait. Il y a d'autres besoins dans le système de soins qui sont des besoins évidemment considérables, qui sont des besoins d'une totale légitimité. Jusqu'où peut-on orienter des financements très élevés vers un seul patient? Donc derrière, ça pose cette question de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif, de notre capacité à avoir des choix collectifs, et notre capacité, au fond, à avoir une vision plus large que purement nationale, puisque précisément, en face du négociateur français, ce sont des entreprises elles-mêmes mondialisées. Ça n'est plus Sanofi, ça n'est plus Synthé Labo, ça n'est plus Poulenc, ce sont des laboratoires qui ont une vision mondialisée et ça modifie complètement les paradigmes. Le deuxième exemple que nous avons retenu, c'est donc l'exemple des données individuelles de santé. Et au fond, cet exemple-là, il est particulièrement riche et important parce que nous ne sommes là aussi qu'au début de l'histoire. Au fond, Didier Houssin le rappelait tout à l'heure, nous avons dans notre pays construit des bases de données qui sont en réalité les plus importantes au monde. Et nous l'avons construit à la française, c'est-à-dire au fond sans idée préconçue. Ça n'est pas un urbanisme, une architecture qui a été dessinée a priori. C'est plutôt Notre-Dame, les différents siècles ayant apporté je dirais, leur pierre à l'édifice, et on a quelque chose d'extraordinaire. Bien, la base de données de l'assurance maladie, c'est un système du même ordre. C'est né de la carte vitale. En 1990-1995, notre pays a été pionnier dans la digitalisation avec la dématérialisation des feuilles de soins et cette petite carte verte qui, à l'époque, n'avait pas de photo, qui a été mise en place après 1995. Et le monde entier est venu voir comment la France s'y prenait. C'était aussi innovant que pouvait l'être à l'époque le Minitel. Alors, le Minitel n'a pas eu vraiment d'avenir. La carte vitale en a davantage. Et donc, par la dématérialisation des feuilles de soins, on a commencé à constituer une base de données de soins de ville. Et puis, l'intelligence humaine a fait qu'on a progressivement connecté à cette base de données des soins de ville la base hospitalière qui cherche à apprécier l'activité hospitalière et qui sert pour une part à sa facturation. Donc la base dite du PMSI. Et donc, on a pu connecter patient par patient à la fois son parcours dans le système de soins ambulatoires en ville et le parcours dans le système de soins hospitaliers. Alors, ce sont des données qui, en principe, sont des données de facturation. C'est pour ça qu'on les dit médico-économiques, mais elles disent quand même beaucoup du parcours médical du patient dans le système de soins. Elles disent beaucoup des pathologies dont le patient peut être affecté. Alors, cette base, elle s'est développée à bas bruit. C'est un trésor caché pendant des années. En réalité, seule l'assurance maladie connaissait son existence. C'était pour elle un peu une arme de dissuasion massive. Quand une profession était trop revendicatrice, on disait, mais vous savez, il y a la possibilité de savoir ce que vous faites vraiment. Et quelquefois, on passait à l'action. Mais derrière, on a un système qui est structuré, on a un système qui est anonymisé et on a un système dont les virtualités sont absolument prodigieuses. Ce système-là, qui est un système maîtrisé dans une certaine mesure, j'y reviendrai, est un système qui aujourd'hui se voit concurrencé par le fait que nous sommes nombreux à avoir ce type d'appareil dans nos poches, que se multiplient des applications dites de santé et que donc le monde des objets connectés commence juste à prendre son essor. Et là, les objets connectés transmettent des données, non pas un système maîtrisé comme le système de l'assurance maladie, mais transmettent des données vers des hébergeurs de données qui ne sont pas nationaux, qui sont souvent internationaux. Et c'est là qu'on voit se développer un système qui a des moyens absolument considérables, qui est l'investissement sur ces données de santé et leur exploitation de ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et j'oublie le dernier, voilà, qui en réalité investissent à bas bruit sur ces données de santé, s'en servent comme matériaux. Alors bien sûr, il y a sans doute une dimension altruiste, mais enfin, elle n'est sans doute pas seulement altruiste. Et on a vu se développer, annoncer au début du mois de février, pour la première fois, le fait que Amazon, qui a beaucoup investi dans ces données de santé, a créé avec deux institutions américaines, une banque et puis un consortium, une mutuelle pour leurs propres agents. Donc un million de personnes, ce qui n'est pas rien, en disant qu'il pourrait procurer à ces personnes des soins meilleurs, à meilleur prix que les autres dispositifs de couverture américains. Alors, ça n'est pas trop difficile aux États-Unis, mais ça montre bien qu'il y a un souci d'investissement dans le domaine assurantiel. Et que par là, on voit se poser dans l'utilisation de ces données de santé, dans la manière dont elles peuvent être utilisées, des questions qui sont assez fondamentales. Parce que un système de protection solidaire est un système qui mutualise les risques. Au fond, ce qui a été construit par le Conseil national de la résistance, mis en place à partir de 1945, c'est un système de mutualisation où, évidemment, on est cotisant en bonne santé, mais quand on a un pépin de santé, une difficulté, eh bien, les coûts sont pris en charge par le reste de la collectivité. Et donc, on est cotisant ou apporteur de cotisations à certains moments, on est bénéficiaire de ces cotisations à d'autres moments. La question du traitement des données peut amener, là aussi, à faire imploser ce système. Parce que les données permettent d'aller vers ce qu'on appelle une médecine prédictive. Et au fond, déplace le regard de ce qu'est la pathologie, de ce qu'est la maladie, le patient, vers le risque d'être atteint d'une maladie ou d'une pathologie. Et donc ça, c'est un changement de paradigme total. Parce que le système de soins, comme son nom l'indique, il est là pour prendre en charge des personnes atteintes de maladies. L'exploitation, les algorithmes d'exploitation des mégadonnées permettent de dire à quelqu'un, vous, eh bien, vous aurez, plus que vraisemblablement, en réalité c'est assez prédictif, tel ou tel type de problème de santé. Mais vous ne l'aurez pas. Et donc, ceux qui seront considérés comme sans risque vont dire, moi, je paie trop. Et s'ils disent « je paie trop », ça veut dire que ceux qui ont des risques, qui à un certain moment s'avéreront, risquent de ne pas être pris en charge. Donc le principe de solidarité lui-même risque d'être mis en cause. Et donc là, vous le voyez aussi, la question de l'arbitrage entre intérêt individuel et intérêt collectif se pose. L'intérêt individuel, c'est au fond de savoir « est-ce que j'ai le risque d'être atteint de telle ou telle maladie ?» L'intérêt collectif, ça serait plutôt de dire, finalement, c'est peu important de le savoir, parce que, au fond, je serai pris en charge le moment. Donc, ce sont en réalité des questions qui sont choix éthiques, qui sont des enjeux politiques. Et qui, au fond, amène à s'interroger sur notre société. Notamment quand on voit l'accélération du développement des données de santé, avec le fait que ces données de santé donc, sont communicantes, qu'elles s'intègrent dans des réseaux, que ces réseaux ne sont pas uniquement des réseaux qu'on peut garder nationaux, mais qui s'intègrent dans des réseaux internationaux. Il y a aujourd'hui, on peut acheter des données de santé d'un citoyen français. Alors, en principe, ce n'est pas possible, mais vous savez que les hôpitaux sont mal protégés, qu'on peut, dans les hôpitaux, récupérer des données médicales des patients, et ces données peuvent être revendues à l'autre bout du monde. Il y a un cours de la donnée médicale. Donc ces situations-là amènent vraiment à penser que la question de notre société, c'est sa capacité à dominer la technique. Et il me semble que cette question-là, qui était la question que posait Jacques Ellul, qui avait souligné la dynamique de la technique, son développement autonome, son développement universel, son développement qu'il appelait totalisant, c'est-à-dire précisément s'emparant de tous les domaines de la vie sociale et finissant par devenir à elle-même sa propre fin, laissant de côté finalement la personne et l'homme, C'est une question, en réalité, fondamentale. Elle se pose à travers le système de santé, à travers ses évolutions, à travers ce qui est à l'œuvre. C'est sans doute une réflexion politique plus large pour...
Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Je pense que Antoine Neumann a aussi honoré cette idée que notre débat était un débat fondamentalement politique. Alors, il y a des choses agréables à entendre. On dit souvent que la France est en retard, donc en matière médicale, elle est pionnière. On a lu beaucoup de choses très désagréables sur la carte vitale. On découvre que c'est un trésor caché d'une cathédrale du 21e siècle, donc c'est très réjouissant. Et en même temps, on voit bien que le risque d'être en avance, c'est aussi un jour d'être en retard, parce qu'on croit qu'on est en avance et qu'en même temps, les autres sont vergognes, parce qu'ils ont les moyens, accèdent à des données disponibles. C'est l'allusion au GAFA. Juste avant d'ouvrir le débat, parler des états généraux de la bioéthique, mais vous voyez bien que les questions qui sont posées par les deux intervenants sont des questions éminemment politiques. Si, comme nous le dit Antoine, l'enjeu face aux stratégies nouvelles des médicaments, il a expliqué ça de manière vraiment lumineuse, c'est qu'il ne peut y avoir de négociations équilibrées qu'au niveau européen. Il est urgent de le dire. À un moment où vous sentez que partout remonte l'idée qu'on est bien chez soi, à frontières fermées. Alors c'est peut-être vrai, mais en tout cas, en matière de négociation de molécules coûteuses, ça risque d'être un phénomène d'exclusion massive. Ça, c'est le premier exemple. Et quant aux données de santé, en effet, ce serait dommage que ce trésor gâché, soit gâché et soit dilapidé. Et je voulais simplement signaler que notre pays s'honorerait, je sais qu'Antoine a été un des artisans de cette idée qu'il fallait débattre une fois par an au Parlement des grands enjeux de la sécurité sociale. Vous voyez que ce soir, le débat pouvait nous laisser à penser qu'on discuterait de technique, et qu'en réalité, les questions qui sont posées par les deux intervenants sont des questions politiques. Quels sont les principes sur lesquels nous nous mettons d'accord? Et jusqu'où la solidarité doit-elle aller? Donc je suis absolument convaincu que, grâce à nos deux intervenants, que je remercie à votre nom, nous allons pouvoir poursuivre ce débat et aller plus loin encore dans le questionnement et la réflexion. Donc ce que je vous propose, c'est qu'il y a un micro qui va circuler et... ceux qui souhaitent poser les questions le feront. On peut les prendre par deux ou par trois, de manière à ce que le débat soit, comme on dit, ordonné. Donc, à vous la parole et merci encore Didier Houssa et Antoine Durleman. Qui souhaite intervenir pour prolonger ou pour poser une question, bien sûr, tout est ouvert. Et notamment aux plus jeunes, que nous sommes très heureux de voir ce soir nombreux à cette séance. Alors.
Je demande la parole parce que c'est un plaisir pour moi d'avoir écouté M. Durleman avec lequel j'ai eu la chance de travailler, sous les ordres duquel j'ai eu la chance de travailler, et puis avec Didier Houssa. Néanmoins, celui qui pose une question doit, me semble-t-il, se dire voyons. Voilà deux exposés qui sont extrêmement clairs, nous voyons bien ce qu'ils nous ont montré, mais premièrement, nous ont-ils caché quelque chose? Et deuxièmement, nous ont-ils donné une vue d'ensemble? Donc, je vais essayer de vous poser des questions dans ce sens-là. Pour cela, j'ai besoin de renseignements que vous avez certainement et que je ne suis pas sûr d'avoir en tête. Donc, d'un côté, on a le poids global des maladies qui représente la charge sur la santé des Français d'un certain nombre de maladies ou de handicaps. Les deux réunis. Par exemple, une masse qu'on peut mesurer à l'échelon. Être mesuré aussi à l'échelon d'environ 135 pays dans le monde. Car on ne peut pas interpréter les chiffres français sans savoir où se situent les autres pays du monde. Les hommes sont des hommes, les Français sont des Français, mais on peut être breton, peut être corse, peu importe, c'est le monde. On analyse le monde entier. Donc, le poids des maladies, je voudrais savoir, auprès de M. Houssin, pour aller à fond dans le raisonnement, à combien il estime en France, en pourcentage des dépenses de santé, les transplantations et les hémodialyses? Quel pourcentage de l'ensemble des dépenses de santé, quand il traite très bien ce problème-là, qu'est-ce qu'il couvre? Et de la même façon, Je voudrais demander à M. Durleman, quand il traite le problème du médicament que nous avions abordé ensemble, quand il fallait essayer de savoir comment les Anglais faisaient pour avoir à la fois une politique de recherche rentable et une politique sociale qui ne soit pas trop inégale, il s'est avéré qu'elle était assez inégale. Donc je voudrais demander à M. Durleman, quand il traite le problème du médicament, quel est globalement, dans la masse des dépenses de santé, le pourcentage qu'en prenant ce problème-là, il vient de traiter. Donc pour M. Houssin, les transplantations, les hémodialyses, etc., 100% de dépenses de santé, quel pourcentage? Pour M. Durleman, les médicaments, quel pourcentage?
Répondre à ces deux questions très précises.
En fonction de ça, je pourrais répondre.
Ah, d'accord. Alors c'est un jeu de questions-réponses.
Pour vérifier qu'on est d'accord sur le
chiffre. On peut peut-être répondre à ces deux questions précises, et puis ensuite revenir au débat. Alors,
dit où ça? Je ne sais pas. Mais ce que je sais en revanche, c'est que la greffe rénale est beaucoup moins coûteuse que l'hémodialyse. C'est même un des rares cas en médecine où on peut dire qu'un traitement est bénéfique sur le plan médical et en même temps moins coûteux du point de vue économique. Donc, c'est ça. Deuxième chose, mais c'est par exemple, au Bénin, j'ai vu l'information aujourd'hui, dépenses de santé de la population qui est une... Et les trois quarts, c'est pour payer les médicaments.
Juan, je dirais que le médicament en France, c'est 33 milliards d'euros. C'est 33 milliards d'euros avec 28 milliards de dépenses en ville, qui ont baissé par rapport à 2008, parce qu'il y a eu de la part des pouvoirs publics une politique extrêmement résolue, et notamment il y a eu le développement du générique. C'est une dépense qui est revenue à son niveau de 2008 après avoir flambé. À l'hôpital, c'est 5 milliards d'euros supplémentaires. Et pour la dialyse et la greffe, je dirais que c'est entre 3,5 milliards et 4 milliards d'euros. Alors, le budget global, enfin, la dépense. C'est de l'ordre de 260 milliards d'euros.
Le poids des maladies que nous couvrons dans ce qui a été discuté va représenter peut-être 40 à 50%, parce que le cancer c'est grave, parce que l'hépatite c'est grave, etc. Et les dépenses que nous avons discutées vont recouvrir environ 20% des dépenses de santé. Donc, quand on envisage l'ensemble, je ne pense pas, et vous êtes obligé de le faire, et vous l'avez très bien fait, on ne pouvait pas tout traiter, vous avez sélectionné deux points. Mais pour bien comprendre le raisonnement qu'il y a derrière tout ça, je crois qu'il faut mettre en parallèle le poids des maladies, 10%, 20%, 30%, 40%, le cancer monte à 30%, l'hépatite avec la transplantation hépatique, etc., monte à 30%, les dépenses, et puis au milieu, une autre zone qui est encore plus importante, de l'ordre de 80%, qui est le fonctionnement du système. Est-ce qu'on peut se lancer dans les discussions ciblées sur le médicament, je reprends l'hépatite, 40 000 à 70 000 euros selon les pays pour un an de traitement d'hépatite, pour les trois mois de traitement pour guérir une hépatite. Mais les pays qui ont une hépatite, ce n'est pas la France, c'est l'Inde, c'est l'Égypte, etc. Et la négociation qui résulte du scandale qu'avait été le sida et les discussions de Doha, ça a été de dire que finalement en Égypte, le prix serait de 700 euros, ce qui est énorme. Autrement dit, les 700 euros égyptiens ou indiens sont aussi énormes que les 40 000 euros. Mais ils existent. Et le point est particulièrement important parce que quand on fait un raisonnement au niveau du mondial, dans 5 ans, les étudiants en médecine de Berlin ont envahi un amphithéâtre sur la vaccination contre le HPV. La vaccination contre le HPV permet d'éviter les cancers du col. col cervical. Et le vaccin coûte une somme non négligeable en France, de l'ordre de 300-400 euros. Somme qui a été donnée d'ailleurs, puisque, un, la France est leader en matière de vaccins, et deux, les usines de fabrication ont pu être installées en France. Je ne sais pas quelle est la négociation, je ne la connais pas, mais elle existe. Et simultanément, les pays qui ont le cancer du col, pour le moment, n'ont absolument pas accès à ce vaccin. Autrement dit, on ne respecte pas les règles de santé publique qui sont de commencer par les pays les plus à risque pour aller après dans les pays à moins à risque. Pourquoi ? Parce que certains pays, comme l'a dit Didier, ne sont pas solvables et les autres sont solvables. Et en théorie, on assure par le bénéfice subventionnent nos systèmes de santé, puisque quand c'est eux qui découvrent les médicaments, ils accusent de les bloquer sur les prix alors que c'est eux qui ont fait les investissements. Donc les tensions entre États-Unis et Europe sur ce sujet-là ne sont pas négligeables. Mais surtout, il y a au niveau du monde une injustice. Et ceci ne peut être analysé qu'en ayant une vue globale du poids de la maladie d'un côté, parfaitement connue. La Sécurité sociale fait en France une campagne sur les lombalgies. On a dit aux médecins de la Sécurité sociale, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire qu'on a mal dans le dos ? C'est pas l'urgence, le cancer. Vous ouvrez le monde d'hier, la bronchite chronique est un grand problème de santé publique. Le monde d'avant-hier, c'était la perte d'audition de la population. Il y a 5 millions de pères français qui n'entendent pas. C'est épouvantable. Le monde d'avant, c'était, on a quand même 850 000 à 1 million de cas d'Alzheimer en France, c'est épouvantable, etc. Les diabétiques arrivent avec leurs 4 millions. Et à la fin, y a-t-il un Français en bonne santé, puisque les différentes forces de pression se poussent sans faire le calcul global. Et je voulais simplement dire que, par votre exposé, vous choisissez, à juste titre, de traiter des sujets qui eux-mêmes ont des questions. Mais je crois que c'est important pour tout le monde d'avoir la vision d'ensemble. Si on n'a pas la vision d'ensemble, qui nous est cachée, M. Durleman se le rappelle certainement, les échanges des informations entre les ministères, la Caisse de Sécurité sociale, l'adresse, la DOS, le truc, mais c'était un enfer. Nous étions avec M. Weber, qui avait été le conseiller de Mme Veil, et qui nous décrivait comment les choses marchaient. Pour quelqu'un comme moi, ce qui était ma découverte, c'était terrible. Donc la vision globale et le partage de l'information, pas le vol de l'information, le partage de l'information, c'est fondamental.
Alors, vous avez assisté à une innovation dans nos débats, c'est que nous avons eu un troisième intervenant qualifié, puisque le professeur Ménard était directeur général de la santé avant M. Houssin, et qu'il a donc contribué à éclairer notre débat. On le remercie et on va reprendre des questions maintenant.
Oui, c'est une question par rapport à l'évolution de l'industrie pharmaceutique et l'évolution aussi par rapport aux nouveaux types de médicaments qui sont développés. Aux États-Unis, je vois qu'il y a des initiatives, par exemple, d'hôpitaux catholiques de se grouper pour faire des sociétés pharmaceutiques à but non lucratif face à l'explosion des médicaments. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser aussi, enfin, peut-être d'autres modes de production des médicaments, sachant que, effectivement, pour certains groupes, il s'agit simplement de donner le plus de bénéfices à leurs actionnaires et la notion de bien commun n'existe guère.
Il reste, à ma connaissance, une entreprise pharmaceutique hospitalière en France, c'est celle de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui a précisément comme rôle, en réalité, de développer des médicaments orphelins. Alors, pour avoir, décidé d'un certain nombre d'investissements dans la plateforme de production de Nanterre, puisque l'outil de production est à Nanterre, même à la dimension d'un groupe comme la PHP, c'était asphyxiant. C'était littéralement asphyxiant parce que les normes de production, les investissements de production, les garanties sanitaires qui sont celles d'un... le rendent extrêmement, extrêmement onéreux. Alors, on n'intégrait pas dans ce coût le coût de découverte parce qu'il y avait un certain nombre de molécules qui avaient été développées par les équipes de la PHP. D'autres étaient en réalité des médicaments orphelins que des sociétés pharmaceutiques du secteur privé ne trouvaient plus intéressants à développer. Et donc, on reprenait ce type de production. Et historiquement, il y avait, me semble-t-il, un outil de production militaire et même l'armée a baissé les bras en considérant que c'était plus son sujet. Mais la question qui peut se poser, c'est de savoir si au fond, ça ne devrait pas être le rôle de fondation de développer un certain nombre d'activités. Alors, il y a des laboratoires pharmaceutiques en France qui sont passés sous le régime de notamment Pierre Fabre, mais ce ne sont pas des laboratoires qui ont nécessairement toujours une force de recherche considérable. En fond, ce qui coûte cher, c'est la recherche. La production coûte cher, mais enfin, c'est la phase d'avant qui coûte très cher.
Des médicaments. L'enjeu politique, un des aspects difficiles, c'est qu'effectivement, il faut savoir dans quel périmètre on se situe. Est-ce qu'on se situe dans un périmètre national, européen ou mondial? Un des arguments que l'industrie pharmaceutique utilise, alors peut-être de façon un petit peu sournoise, c'est de dire, ben, finalement, dans les pays développés, effectivement, nous avons des tarifs extrêmement élevés, mais ça permet de faire des prix différenciés et de proposer dans des pays pauvres ou relativement pauvres des tarifs beaucoup moins importants. Et donc finalement, on est un tout petit peu l'organisateur d'une forme de redistribution qui, à l'échelon mondial, pourrait être considérée comme une mesure de justice. Et donc, c'est vrai que ça rend difficile la discussion et parce que cet argument, on ne peut pas ne pas l'entendre.
Alors, d'autres questions? Je crois au fond de la salle, oui.
Et je vais me faire le défenseur des villas capitales. Je vais me faire le défenseur des villas capitalistes. A priori, les actionnaires des grands groupes pharmaceutiques, avez-vous une idée du montant des dividendes que cela représente par rapport, évidemment, peut-être au chiffre d'affaires? Ce que j'avais plutôt compris, donc... Le problème principal, c'est vraiment le coût de la recherche, vous venez de dire ensuite, le coût de la production. En ce moment, je ne vois pas de solution si on va vers des découvertes qui coûtent horriblement cher et de la production de médicaments qui coûte horriblement cher.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pierre Corvol au premier rang. Parce qu'il faut qu'on puisse vous entendre la salle.
Merci. Mais je pense, comme l'a dit Antoine Durlemann, le système de la recherche a complètement évolué. Je veux dire, à l'heure actuelle, les grandes compagnies pharmaceutiques ne font plus de recherche intramuros. Elles explorent avec des systèmes extrêmement performants quelles sont les start-up qui proviennent en fait du milieu universitaire la plupart du temps, pour pouvoir récupérer les molécules qui peuvent être intéressantes. Et d'ailleurs, ça se comprend très bien. C'est un système qui s'auto-alimente dans la mesure où un laboratoire universitaire ne va pas s'amuser à trouver un médicament majeur, disons, sur l'hypercholestérolémie ou sur le Parkinson, parce qu'il sait qu'il sera doublé ou que des recherches ont déjà eu lieu dans le domaine par ce qu'on appelle les « majors ». C'est le cas, par exemple, de l'Alzheimer. Les laboratoires universitaires ne le font pas. Donc, en fin de compte, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que la recherche universitaire génère une recherche extrêmement performante à l'origine de ces multiples propositions médicamenteuses en biologie, qui est récupéré par l'industrie pharmaceutique, qui a les capitaux pour pouvoir le développer. Et donc, nous sommes dans un système qui est quand même pervers à cet égard. Parce que nous c'est la double peine. On paye et l'université, et on paye le médicament qui provient de l'université. Donc, je voudrais quand même, là, souligner ce point.
Il y a une question au fond de la salle, voilà. Et puis après, peut-être qu'on répondra à ces trois questions. Le financement, peine, et puis la troisième question.
J'ajouterais juste une chose, c'est que là, dans la recherche universitaire, on peut déposer des brevets, et qu'en fait, ce qui coûte cher à l'industrie, c'est d'acheter ces brevets, parce qu'il faut les reprendre. Donc, en fait, il y a une collaboration entre les deux, et c'est vrai, il y a une certaine protection quand même de la recherche universitaire par le dépôt des brevets.
On peut prendre un instant pour répondre à ces observations, interrogations, le financement de la recherche, peine, et puis la question des brevets. Antoine.
La question des brevets, elle est liée au financement de la recherche, c'est-à-dire que la recherche a toujours été onéreuse. Donc le fait qu'on ait des durées de protection particulières en matière pharmaceutique, parce que la durée des brevets est particulière, s'explique naturellement. Mais en réalité, le changement, c'est plutôt, comme le disait le professeur Corvol, c'est le fait que ce sont des rachats successifs. En réalité, il y a des rachats de rachats, et avec chaque fois, si vous me passez l'expression, une culbute financière, qui fait que, in fine, le laboratoire qui va mettre le médicament, qui peut être un médicament vraiment novateur sur le marché, ben, il va moins amortir les coûts de recherche successifs que les coûts de rachat successifs, parce que le laboratoire qui va mettre sur le marché... Le produit a déjà été propriété de deux ou trois autres laboratoires plus petits. Il y a eu une concurrence parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment prometteur. Et donc, les prix se sont envolés. Et on cherche à amortir le plus vite possible. Le plus vite possible sur une population réduite avec une autre stratégie qui est de dire, finalement, on introduit ce médicament sur une indication particulière. Donc, on va viser tel type de population. Et puis, deux ans ou trois ans après, une fois qu'on a saturé ce premier marché, le même laboratoire va venir, et il le savait depuis le début, en disant, à propos, c'est un médicament qui est aussi utile pour un deuxième type d'indication. Et alors, évidemment, comme le prix initial sur la première indication a été, si vous me passez l'expression, cranté à un niveau extrêmement élevé, ben, c'est très difficile ensuite de le rabaisser. Donc, il y a une stratégie qui est quand même très construite et très volontaire. C'est une vraie stratégie.
Il y a un mot ?
Oui, il y a effectivement un phénomène de poussée vers l'individualisation comme l'a dit Antoine Durlemin, met en péril le système de la solidarité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, les données individuelles vont permettre, à partir de biomarqueurs, de mesures, disons, de médecine prédictive, de trouver une molécule adaptée à une personne, etc., on voit bien qu'on va dans un système qui va devenir extrêmement individualiste. Extrêmement individualiste. Et la difficulté, c'est comment arriver à préserver une forme de solidarité alors que, c'est pas nouveau qu'on aille vers l'individualisme, mais disons que ça, dans ce domaine-là, c'est clairement une accentuation qui est liée à la question des données et à la question de cette forme de thérapeutique qui est sur des... Il n'y a plus un cancer, mais un sous-cancer qui correspond à ce type de cellule pour lequel cette molécule va fonctionner, etc., etc. Donc, je pense que c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté.
On n'épuise pas le sujet.
Euh, Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui coûte plus cher à développer pour l'industrie pharmaceutique, un produit naturel tel que l'opium, la morphine, la pénicilline, etc., ou les produits qui viennent de l'industrie chimique?
Bonsoir, Jean-Louis Cizan. J'ai peut-être mal compris, mais Monsieur Durleman, vous avez dit quoi, que les données, par exemple mes données personnelles de santé, pouvaient être présentes dans un pays ou en Inde, au Japon, aux États-Unis. Est-ce que vous confirmez ces dires?
Marc Brodin, ce matin j'étais dans un congrès qui se situe aussi dans le contexte de réflexion éthique sur les données de santé, mais les participants étaient des industriels, des politiques et puis des gens du secteur santé. Alors j'ai découvert que l'Europe, le 25 mai 2018, c'est donc prochain, s'est mis d'accord, l'ensemble des pays, sur des principes qui vise à réglementer la protection des données. Alors, est-ce que vous avez des informations là-dessus?
On va répondre à ces questions. Donc, je les reprends. L'origine, la nature des médicaments. La question de... Je crois que l'un faisait référence à ce que disait Antoine sur la fragilité des systèmes informatiques et la possibilité éventuellement qu'il y ait des intrusions. Et puis enfin, la question de plus générale, est-ce que les pays européens s'organisent pour protéger contre toutes les intrusions, et il n'y a pas que les intrusions en matière de santé, qui peuvent venir de hackers, comme on dit, venus du monde entier.
Le système de l'assurance maladie, un système... qui est à peu près en état de l'art. Donc, il est protégé. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes activités à la Cour des comptes, de pratiquer des tests d'effraction auxquels il a résisté. Cela étant, il a quand même un certain nombre de faiblesses de sécurité. La CNIL vient récemment de rendre, tout dernièrement, il y a trois semaines, un avis très sévère sur certains aspects de sécurité de cette base de données. Et puis, il y a, à plus long terme, un risque qui n'est pas un risque d'effraction physique, c'est-à-dire pénétration du système avec derrière ce qu'on peut imaginer, d'exportation de données ou de rançonnage. C'est la question de la dureté, si j'ose dire, des modules d'anonymisation. Parce que, évidemment, ces bases de données sont anonymisées à un double niveau, selon des clés d'anonymisation qui, pour l'instant, sont encore solides. On pense qu'elles sont encore solides 5-6 ans, mais qu'il va falloir changer d'ici 5-6 ans. Et derrière, ce n'est pas seulement le système de l'assurance maladie qu'il va falloir mettre à un échelon supérieur de sécurité, c'est l'ensemble de ceux qui apportent vers le système de l'assurance maladie les données de santé, notamment les hôpitaux. Et d'ores et déjà, une des faiblesses du système, ce sont les insuffisantes protections des données de santé hospitalières. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous savez qu'il y a dans notre pays une série d'attaques au long des sur... on a beaucoup parlé de Renault, on a beaucoup parlé de tel ou tel... Mais un certain nombre d'hôpitaux ont également été visés. Et les hôpitaux, c'est un des points faibles du système. Et puis, il y a un deuxième aspect... qui sont les données qui sont liées aux objets connectés, par exemple une montre qui vous prend le pouls, qui compte le nombre de pas et qui voilà, donne à ça. Bon, ces données, en réalité, elles sont exploitées. Là, personne n'en a la maîtrise. Ce n'est pas un système sur lequel il y a une protection.
Pas ce qu'on va en faire, quoi. Mais il va dire, bon, vous êtes en bonne santé.
Voyez, si, parce que évidemment, la donnée elle seule, elle dit peu de choses. Mais imaginez que vous achetiez en même temps sur en une grande place de marché, par exemple, des fleurs ou un pèse-personne particulier ou un analyseur particulier. Imaginez que vous achetiez sur cette même place de marché ou qu'on récupère, par exemple, vos données de consommation. Est-ce que votre facture chez le charcutier est plus importante que votre facture chez le laitier? Voilà. Et donc, la force de ces systèmes d'intégration, c'est de relier les données et de dire, bah, monsieur, votre cœur bat trop vite, vous ne marchez pas assez, votre alimentation est totalement déséquilibrée, et donc vous êtes à mauvais risque. Donc vous êtes à mauvais risque. Et donc, voilà. Et c'est ça la force de concentration de la société technicienne, pour reprendre le terme de Jacques Ellul. C'est cette capacité de la technique à se connecter et envahir tous les aspects. Ce n'est pas simplement dans le domaine simplement biomédical. C'est cette capacité à rassembler des données sur vous qui viennent de partout et qui disent quelque chose de vous, sans que vous en soyez informé. Ben, l'origine des médicaments, alors là, je laisse à plus savoir que moi.
Alors, le troisième intervenant de la Ménard.
Le coût de développement que vous avez demandé, il est absolument énorme et on le sous-estime. Donc, je prends un exemple extrêmement précis, la maladie d'Alzheimer. Je pense que chacun d'entre nous voudrait qu'un jour, on puisse avoir un traitement qui empêche soit la survenue, soit l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Donc, de 1900, de 2007 à maintenant, il y a eu, disons, 5 à 6 grandes tentatives mondiales de développer un médicament sur des bases qui étaient logiques, avec des idées qui pouvaient venir ou de l'industrie, ou de l'université, peu importe. Mais pour le faire, il faut recruter et suivre pendant très longtemps un assez grand nombre de sujets, avec actuellement des examens qui sont de plus en plus coûteux. Quand vous faites des imageries par résonance magnétique chez les patients de manière sérielle, le coût augmente. Donc chacun de ces produits, au nombre de quelque part entre 5 et 10, hein, a déjà coûté pratiquement 1 milliard de dollars de développement. Ce qui fait que celui qui va apparaître, et qu'on espère, il coûtera son prix de développement, mais en réalité, il coûtera aussi, alors c'est une question de chance, celui qui l'a ou qui ne l'a pas, mais l'investissement qui a été fait par des actionnaires X est accumulé pour que le jour où ce médicament-là arrivera, on se rappelle. L'énorme crainte de quelqu'un qui travaille sur un sujet, c'est que pour des raisons de business, on se détourne d'un sujet. On dit le sujet est trop difficile. Et on voit de fait très bien comment s'est orientée la recherche des différentes personnes pour le cancer. Mais on ne va pas être contre pour la découverte de nouveaux médicaments sur le cancer. Chaque personne voudrait avoir son traitement. Mais chaque industriel ne peut pas investir en même temps dans tous les domaines. Donc on voit des développements de masse changer. Nous avons avec Pierre Corvol toujours travaillé sur l'hypertension artérielle. Il n'y a plus d'investissement sur l'hypertension artérielle. Bon, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est suffisant. Il y a encore des choses à faire. Mais pourquoi, en un premier temps, les développements de médicaments coûtaient environ 200 à 500 millions de dollars pour mettre une molécule sur le marché, puis on est monté à 1 billion. Alors, il y a eu plein de livres d'écrits, « 1 billion dollar molecule ». Ça a été, il y a de nombreux de livres qui commencent comme ça. Mais aujourd'hui, on est au-dessus de ça. Et pour vous donner un autre chiffre, puisque vous avez posé la question sur l'actionnaire. Alors, l'actionnaire, c'est quelqu'un qui, tous les trois mois, veut savoir l'état d'avancement des portefeuilles. Donc, il faut communiquer à la presse pour que l'actionnaire soit mis en confiance. Et à la fin, quand la chute se produit, qu'elle vienne d'une start-up ou qu'elle vienne d'un gros laboratoire, on voit le cours de la bourse qui fait une chute absolument terrible et qui remonte éventuellement après. Mais il faut savoir qu'il y a des mouvements qu'on ne peut pas, moi, enfin en tout cas moi je ne peux pas les maîtriser du tout, qui se passent au niveau de sommes d'argent qu'on ne connaît pas. On ne les connaît pas. Donc vous avez demandé combien on gagne d'argent dans l'industrie. Alors le meilleur exemple qu'on peut trouver récent, M. Vazola était le président directeur général de Novartis, et au moment où il était président directeur général de Novartis, on a trouvé le Glivec, qui était une molécule qui marchait dans une forme très rare de leucémie et qui était commercialisée très très cher. Donc M. Vazola, j'insiste bien, est un homme tout à fait respectable, un médecin qui arrive au moment où des gens depuis 1983, il lui arrive en 96, depuis 1983 travaillaient sur ce sujet-là. Un Américain, d'ailleurs, et M. Mater, qui était un des chercheurs de Sibagaghi. Donc, il réussit magnifiquement le lancement de la molécule. L'argent rapporté déborde. C'est extraordinaire. Personne ne s'y attendait. C'était une maladie rare, mais elle a eu un prix très haut, comme vous l'avez expliqué. Et on a dit, mais le PDG de Novartis, c'est fantastique. Donc, quand il part, et le chiffre est intéressant à retenir, on lui a donné 22 millions. En fait, il est parti parce que les autres molécules ne marchaient pas aussi bien que ça, d'une part. Et d'autre part, ça a tellement choqué les Suisses, qui sont quand même des gens très respectueux sur un certain nombre de choses, qu'ils ont lancé une loi pour que certains patrons de l'industrie ne gagnent pas plus qu'une certaine somme d'argent par an. Puisque, alors, bien évidemment, il y a des gens qui sont des managers de l'industrie, que ce soit l'industrie de l'automobile, etc., qui font des choses qui semblent tellement extraordinaires que les chiffres qu'ils ont ne nous concernent plus, ne concernent plus personne. C'est situé à un niveau extraordinaire. Et les reventes de certaines start-up ont été extraordinaires. Mais il ne faut jamais oublier que si vous mettez votre argent, puisque vous avez posé des questions d'argent, si vous mettez votre argent quelque part, surtout pas dans un seul endroit, parce que vous allez investir 10 fois pour qu'il y en ait un qui réussisse. Alors, si vous en faites qu'un, ça peut être risqué. Si vous en faites 10, et si vous êtes très riche, bah, vous pouvez en faire encore plus. Mais il faut bien comprendre tous ces phénomènes-là, parce qu'on n'en est pas maître. Et les gens qui raisonnent là-dessus sont des gens d'un autre milieu. Ils ne sont pas formés. Ils ont été formés pour faire du business. Le patron de Merck qui a eu le problème du Vioxx, c'était un homme qui venait de Gillette. Il venait de Gillette. Il n'est pas responsable de rien, mais c'est pas le même monde. Donc il y a actuellement des mondes qui coexistent et sur lesquels on n'arrive pas, même en travaillant, même en le faisant, on n'arrive pas à avoir toutes les informations voulues. En tout cas, l'exemple de l'Alzheimer, gardez-le en tête, au même titre que le cancer d'ailleurs, hein, ça va coûter un fric fou. Et si jamais les gens se retirent du domaine en disant « mais c'est trop compliqué, on ne veut plus faire ça », alors là, on aura tous le problème qu'on sera comme maintenant, c'est-à-dire vulnérable à la maladie sur un intervalle de temps de 5 à 10 ans.
Vous avez souligné, on pourrait dire, la contribution positive des techniques à l'individualisation des traitements, mais vous avez souligné aussi que ça renforçait l'individualisme. Bon. Alors, est-ce que c'est possible de résister à cela? Parce que ça, c'est un problème éthique, c'est un problème de conviction globale d'une société. Comment on peut redire la nécessité de la solidarité aujourd'hui? Ou bien faut-il se dire, finalement... C'est le libéralisme, l'ultralibéralisme triomphant qui va nous guider, parce que chacun va chercher son intérêt. C'est-à-dire comment se ressaisir collectivement de la question de la solidarité qui est apparue à un moment de l'histoire, vous l'avez bien souligné, fin de la guerre, comme quelque chose d'essentiel. Est-ce que c'est possible de résister à ce mouvement-là qui semble s'emparer tout le monde?
qu'est-ce qu'on peut redire et comment collectivement aussi, par rapport, par exemple, à des médicaments extrêmement coûteux, est-ce que c'est possible de dire collectivement que cet argent-là, il vaudrait mieux qu'il passe ailleurs, soit pour d'autres maladies, soit pour, je sais pas, financer des places des soignants en EHPAD, je sais pas. Enfin, est-ce que c'est possible de se dire ça ou c'est quelque chose qui est inaudible? Est-ce qu'un politique peut soutenir ça? Est-ce que vous, vous pouvez soutenir ça? Qui peut parler de cette manière-là à l'ensemble des citoyens? C'est possible ou pas?
Oui, c'est vrai. Ce que je dirais d'abord, c'est que, premièrement, l'individualisation en matière de santé, elle ne porte pas sur l'ensemble du champ santé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des secteurs où les thérapeutiques sont de plus en plus individualisés, mais malgré tout, ce n'est pas le cas pour toutes les thérapeutiques, que vous preniez tout le champ des urgences. Enfin, ça n'est pas quelque chose qui aujourd'hui est généralisé. Du moins, pour autant que je le sache, hein, parce que peut-être qu'il se passe des choses que j'ignore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour essayer de protéger ce qu'il peut y avoir encore de collectif, ben, il faut essayer d'identifier effectivement quelles sont les activités, les domaines qu'il faut absolument préserver. C'est pour ça que moi, je crois que la question de la liste d'attente, des règles de répartition, je pense que dans notre pays, on pourrait gagner à ne pas vouloir ça mettre ça complètement de côté. Essayer d'affronter cette réalité, d'abord elle existe, j'ai donné un exemple, mais essayer d'affronter cette réalité parce qu'elle va obliger à se poser des questions et à trouver des mécanismes et à trouver des organisations. Et il me semble que c'est peut-être une manière d'essayer de préserver une forme d'approche collective. Voilà une réponse.
Ça, c'est une technique qui existe, mais la conviction derrière, c'est pas la même chose. Ça marche pour les greffes parce qu'on en est persuadé, mais la transposition à d'autres domaines, ça ne marchera pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire?
Antoine. Moi, je crois que ça restitue la nécessité d'une parole politique sur la protection sociale. Parce qu'au fond, on a tendance à réduire la protection sociale à un système comptable, en général déséquilibré, mais pas toujours. Évidemment, on finit par ne plus voir le système de protection sociale que sous son aspect un peu algébrique. En réalité, il a bien une autre finalité que ça, surtout dans un pays comme le nôtre, compte tenu de l'histoire du système de protection sociale. Que, au fond, ça a été vu comme étant un élément fondamental, alors c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais enfin, du vivre ensemble, en tout cas du pacte civique. Il ne faut pas oublier que notre Constitution définit à son article 1er notre République comme une République sociale. Et quelle est l'expression de cette République sociale, sinon précisément la sécurité sociale et en particulier l'assurance maladie. Et quand on lit l'exposé des motifs de l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui crée la sécurité sociale à partir du programme du Conseil national de la résistance de mars 1944, c'est d'une force absolument incroyable. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de décrire un exposé des motifs d'une loi avec une telle expression politique dans le bon sens du terme. Et je pense que c'est vraiment un des points sur lequel l'expression politique, en réalité, est beaucoup trop en retrait. Bien sûr, il faut des réformes, bien sûr, il faut des ajustements, mais au fond, la finalité d'un système de protection sociale, on finit par l'oublier. Et ça, c'est quelque chose qui est grave. Alors, de temps en temps, en général, tous les 10 ans, on se rappelle que la sécurité sociale, ça a été créé il y a 50 ans, 60 ans, 60 ans. Donc, il y a brusquement un réveil, mais c'est quelque chose qui ne porte pas. Dans une vie antérieure, parce que j'avais été amené à proposer à Philippe Séguin de créer des états généraux de la sécurité sociale en 1987, avant des grandes décisions qui ont abouti en particulier à la création de la CSG. Et si j'avais proposé à Philippe Séguin de créer ces états généraux de la sécurité sociale, c'était précis. Alors, la fameuse baleine que certains d'entre vous se souviennent peut-être avoir vue à l'époque. Tout le monde y avait vu un clin d'œil pour Philippe Séguin. C'était une idée de communicant. C'était plutôt l'idée de dire même un cétacé aussi gros qu'une baleine peut couler. Voilà, c'était plutôt ça l'idée. Mais c'était l'idée de dire, au fond, la sécurité sociale, c'est un trésor que nous avons en commun. Et c'est quelque chose de fondamental. Et ça, aujourd'hui, il n'y a plus de parole publique là-dessus.
Oui, la question, c'est celle, effectivement, de la préservation d'un bien commun qui, aujourd'hui, est, disons, mis en cause ou mis en jeu à travers un certain nombre d'innovations. Et donc, la question, c'est, on est dans une période où on a tendance à s'attacher à la préservation de certaines choses, dans le domaine notamment du monde vivant, hein, la diversité, etc., préservation des espèces. Donc, il me semble qu'une manière d'aborder le sujet serait effectivement d'essayer de considérer que cette approche sociale est un bien commun qu'il faut préserver, que face à ces innovations technologiques, eh bien, trouvons les moyens de le préserver.
Peut-on prendre encore quelques questions? Oui, on n'a pas répondu, c'est vrai. Ah ben, c'est pas grave, vous allez en poser une autre, Georges.
Pourquoi chaque pays, ou plutôt l'Europe, ne ferait pas son industrie pharmaceutique? Pourquoi dépendre de sociétés dont le but, c'est de faire du bénéfice? Pourquoi pas une grande industrie européenne?
Toujours dans le thème entre l'intérêt individuel et collectif, je suis en études de médecine et un de nos professeurs nous avait parlé que avec le développement des connaissances sur les facteurs de risque, notamment comportementaux, on pouvait considérer certaines maladies où les patients seraient coupables entre guillemets de leur maladie. Et comment dans ce contexte-là maintenir le principe de solidarité du financement de l'assurance maladie?
Un air plus pharmaceutique et puis
Je dirais que dans ce sens-là, toutes les connaissances par rapport au génome humain risquent d'aller vers un certain individualisme et comment, par rapport à ça, garder en effet ce côté de solidarité.
Oui. Mais je crois qu'effectivement, on a abordé à travers la question du coût, qui est une sorte d'élément de mise en tension et de fragilisation du dispositif de solidarité. Mais la question des comportements en est un autre. Dans certains pays, par exemple, en Grande-Bretagne, moi, je me souviens d'une époque où, en gros, en chirurgie vasculaire, on ne faisait pas de chirurgie réparatrice à des personnes qui fumaient ou continuaient de fumer ou n'avaient pas donné la preuve qu'ils avaient l'intention d'arrêter de fumer. En France, c'est vrai qu'on ne considérait pas ce facteur comportemental comme un élément devant être pris en compte. Mais, et pourtant, c'est sûr que ça mettait en cause, là aussi, des dépenses, etc., des traitements peut-être inutiles. Donc, effectivement, bien identifier tous les éléments qui peuvent, disons, mettre en cause la solidarité et trouver une solution, si possible, cohérente, je pense que c'est un enjeu.
Je pense que y a une question qui est sous-jacente dans notre système, mais que les pères fondateurs avaient vu comme étant une question, de la responsabilité de l'assuré social lui-même. Et au fond, quand on dit qu'un système de protection sociale, c'est un bien commun, ce n'est pas un bien qui vous est donné par on ne sait quel sens étatique. En réalité, c'est quelque chose à quoi on participe et dans lequel on a une responsabilité. Et c'était ça aussi un peu la mystique des débuts. Parce qu'il y a eu, on l'oublie complètement aujourd'hui, sécurité sociale, ces formulaires ou électronique de données, architecture, sécurité sociale, modèle 1950 dans les cas, et c'est l'employé de la sécurité sociale. Il ne faut pas oublier que quand la sécurité sociale s'est créée en 1945, ça a été une véritable mystique. Il y a un documentaire que je vous invite à voir qui est sorti il y a 18 mois, 2 ans, qui s'appelle La Sociale, alors qui est assez orienté parce que on s'appelle Rouge, donc ça peut vouloir dire quelque chose. Mais c'est un documentaire absolument passionnant parce que il y a notamment un certain nombre des grands témoins des années 1945, 1946, 1947, qui expliquent finalement la manière dont ils ont mis sur pied quelque chose qui n'existait absolument pas. Et il y a eu une véritable mystique. Alors, la mystique, elle s'est technocratisée. Voilà. On oublie que c'est une conquête quand même révolutionnaire. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas donné à un système de protection sociale. Quelque chose qui a été voulu, qui a été construit, qui a eu des faiblesses, mais qui a des réussites. Et on voit un certain nombre de pays qui aujourd'hui se construisent, en réalité, sans véritable système de protection sociale. C'est un système d'un total libéralisme, quel précisément qualité d'accès aux soins n'est pas une notion qui n'existe pas. L'accessibilité financière aux soins, il y a des contre-modèles sur des pays qui sont extrêmement importants pour l'avenir de l'AD. Finalement, En Europe, parce que on partage cette vision de solidarité. Regardez le débat sur l'Obamacare aux États-Unis. C'est quand même hallucinant de voir que ça a été un débat à ce point ignorant finalement de la question de la possibilité tout simplement d'avoir des soins quand on est malade. C'est un débat étonnant. Alors on a dit c'est un système à la française. L'Obamacare, c'est un système à la française, donc c'était la timie absolue. Bon, c'est quand même un système de protection solidaire. Et même, on a la responsabilité aujourd'hui de pérenniser, d'une certaine manière, de refonder dans un contexte nouveau un élément quand même tout à fait essentiel de notre vie démocratique. Parce que finalement,
si je peux ajouter un mot. Dans les questions et les remarques que vous avez faites les uns et les autres, je me disais que c'était précisément à propos du lieu. Quelle est l'instance et quel est le lieu où ces questions peuvent être abordées? Et il me semble que nous sommes dans des sociétés où priorité est donnée à l'immédiat, et aujourd'hui, les questions que nous avons abordées sont peu abordées. Ce qui fait la une, c'est plutôt l'extension de la PMA et de la GPA. On répond à des désirs, c'est propre d'une société qui veut satisfaire des besoins. Hein. On a évoqué ces phénomènes de déformation des modèles sur le temps long. Mais qui observe le temps long au niveau d'intérêt général? Ça ne peut être que l'État. Or, la capacité d'analyse de l'évolution de ces systèmes, qui implique grand travail de recherche, de discussion collective, s'est amoindri. Il y a eu une époque glorieuse sur laquelle on ne reviendra pas, qui était ce qu'on appelait le plan, qui cherchait d'avoir à projeter l'avenir. Bon, on ne va pas refaire cela aujourd'hui, mais
quel est le lieu où on peut imaginer les conséquences pour nos systèmes les plus fondamentaux d'évolution économique, sociale ou technologique non maîtrisée. Et la troisième réflexion qui me vient à l'esprit, c'est la tentation de nos sociétés de dire « tant que c'est sous contrôle, dors tranquille ». Je me souviens dans les années 90, au lendemain de la chute de l'Union soviétique, on a dit « on peut lever le pied sur la défense, on rentre dans ce qu'on appelait une pause stratégique ». Et on découvre aujourd'hui qu'il faut d'urgence remonter les budgets militaires. Donc, c'est souvent sous l'empire de la menace ou du risque qu'une société réagit. Et donc, posez-vous la question, enfin, nous devrions nous poser collectivement la question, qu'est-ce qui fait tenir ensemble une société? L'année dernière, un de nos amis est venu, était frappé, il avait fait des études ici, de grands changements de la France. Et il nous demandait qu'est-ce qui fait tenir encore ensemble cette société. Il me semble qu'un des éléments, c'est notre système de sécurité sociale. Parce que chacun sait à peu près qu'il sera soigné, pas trop loin de chez lui. Et donc, je crois que la question qui est comment repolitiser ces affaires que nous avons traitées est une question tout à fait centrale qui dépend de la parole politique. Il me semble qu'aujourd'hui, la ministre de la Santé a le souci, parce qu'elle vient de l'hôpital public, d'aborder ces questions, mais il me semble que ça dépasse la seule ministre de la Santé. Voilà ce que je voulais me permettre de dire, en complément modeste de ce qui a été dit par nos deux intervenants.
Pour répondre à une de vos trois questions, il se trouve qu'on était ce matin avec M. Couturier au Conseil économique, social et environnemental, qui depuis des années s'interroge sur son rôle, son existence, etc. Moi, il me semble que c'est là une instance qui a un pouvoir, disons, pré-législatif et qui pourrait être un lieu où s'organise justement, qui est constitué d'une façon, je dirais, très sociétale, et où on pourrait, qui pourrait être un lieu où s'organise, je dirais, de façon structurée, la confrontation entre la question de la solidarité et tout ce que la technique peut générer comme risque, pousser vers l'individualisme. Et donc, on pourrait imaginer que, justement, cette instance essaye de jouer ce rôle de préparation à des textes qui permettraient de jouer un rôle protecteur vis-à-vis de la baleine.
Puisque le CCNE attend des contributions, est-ce que vous pensez que vous pourriez, avec d'autres, faire une contribution en ce sens? Je ne sais pas qui mobiliser, mais vous comprenez, c'est un enjeu majeur. Donc le CCNE attend des contributions, des espaces éthiques régionaux, etc., des sociétés savantes, des académies, etc. Est-ce que du coup, cette problématique-là, comme enjeu central, pourrait faire l'objet d'un texte, de quelque chose qui serait remis au CCNE, je ne sais pas quelle instance, soit le CESE, soit autre chose. Mais si vous voulez, parce que sinon, on risque de passer à côté de ça. Or, ça apparaît comme une clé de réponse majeure par rapport à toutes les problématiques, pour que ce soit même si on se ressaisit du don d'organes, il n'y a jamais assez d'organes, mais pourquoi finalement on ne pourrait pas les acheter, ou je sais pas, ou le sang, pourquoi on ne pourrait pas l'acheter, le sperme, pourquoi pas l'acheter, etc. Donc, est-ce qu'il y aurait une instance qui pourrait contribuer à un texte, ou dans le cas des états généraux, j'y insiste beaucoup.
C'est la magie de la discussion. Il se trouve que moi, j'ai été entendu par le Parlement là, qui prépare. Enfin, il y a tout un tas de l'OPEX en particulier, enfin, sans doute d'autres aussi. Et c'est vrai que j'ai pas du tout abordé la question sous cet angle-là, qui a un peu émergé au fur et à mesure de la discussion. On a fait des considérations assez générales. C'est vrai que malgré tout, on est dans l'esprit de la loi de bioéthique au sens où ce sont des innovations techniques qui suscitent ces interrogations. Et donc, c'est vrai que ça pourrait se tenir. Alors maintenant, de là être capable d'écrire quelque chose, c'est une fois que tout le monde s'y mette, peut-être, je ne sais pas.
Fin de ce moment de débat, est-ce qu'il y a encore une question? Mademoiselle, pardon, je vous. Mais non, mais vous avez une très belle voix, mais il faut. Ce serait bien que tout le monde puisse vous entendre.
Ma question concerne l'avenir de la médecine personnalisée. En fait, étant donné que la sécurité sociale semble avoir du mal à payer ces molécules très chères, et que même en faisant des négociations, il semblerait que les molécules restent à un prix quand même très coûteux, qu'est-ce que vous avez en tête concernant l'avenir de la médecine personnalisée ? Est-ce qu'il vaut la peine de continuer la recherche dans ce sens, ou est-ce que finalement, ce n'est pas une solution viable et il vaut mieux mettre l'argent ailleurs, dans d'autres domaines ?
Merci beaucoup. C'est une question très importante que vous posez. On n'a pas abordé ce soir, mais c'est bien que vous la posiez au moment où s'achève ce débat.
La question est compliquée, mais moi, j'ai une réponse simple. C'est que, en réalité, dans notre système de protection sociale, dans notre système d'assurance maladie, il y a des pans entiers d'inefficience, pour reprendre un terme très court des comptes. Donc, au fond, dans lequel le rapport qualité-prix est très mauvais. Et y a donc en réalité des poches de financement à dégager pour pouvoir les recibler précisément sur un certain nombre des voies d'avenir dans la prise en charge. Et finalement, on parlait de l'assurance maladie. Je disais, ce n'est pas uniquement une ligne de compte ou un tableau comptable. C'est aussi une institution qui a besoin en permanence de se réformer. C'est pour ça que la question, finalement, de la pertinence des actes, la question de la non-redondance des actes, avec cette espèce de fantôme du dossier médical personnel qui donne l'examen de biologie fait en ville et l'examen fait à l'entrée de l'hôpital, ben, en principe, il devrait. Il y a des pays qui réussissent beaucoup mieux que nous. Quand vous regardez le Danemark, ça fait des années qu'il a un dossier patient informatisé qui vaut pour le médecin de ville comme pour le médecin hospitalier, qui est obligatoire pour l'ensemble de la population. Là, ce n'est pas comme en France où, d'abord, on a déjà dépensé centaines de millions d'euros pour rien. On demande à la CNAM de relancer le dispositif et en laissant quand même aux patients le soin de dire « je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord pour ouvrir mon dossier médical et puis je suis d'accord ou pas d'accord pour que telle ou telle pièce soit versée ou non dans mon... » Les Danois, ils ne s'embarrassent pas de ça. Il y a 10 millions de Danois, il y a 10 millions de dossiers médical personnels. Donc, ça prouve que c'est possible. Notre système, il a aussi ses gaspillages. Il faut le dire, il a ses gaspillages. Il y a des gaspillages dans le système. Ça, c'est ma... Ça, le système, je le rappelais pendant ces... Sortir avec les yeux pédonculés devant certains gaspillages. Enfin, vraiment. Vraiment.
Transport sanitaire.
Les transports sanitaires, enfin, c'est le détour par le marché du taxi. Pourquoi est-ce que maintenant, dans le moindre petit village lozérien, vous avez une station de taxi c'est pas uniquement parce qu'il faut aller au centre anticancéreux à Montpellier. Donc, il y a du ménage à faire et notre système, il est généreux. Il a raison d'être généreux le plus souvent, mais il y a des moments où la générosité devient sans contrôle et devient une forme de gaspillage. Donc, il y a à mettre le système sous tension pour vraiment recibler de l'argent là où il en est besoin.
Oui. Juste pour répondre à cette jeune femme.
Oui,
voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est surtout n'abandonnez pas la médecine personnalisée. Parce que malgré tout, on constate des progrès absolument considérables. Donc, il y a une petite difficulté financière actuellement, c'est clair, elle a été évoquée. Peine d'argent, n'est pas mortelle. Et moi, je crois que la baleine aux yeux pédonculés doit rester souriante. Et on va s'en sortir.
Juste une dernière petite question, a priori courte. La question que je me pose, c'est ne faudrait-il pas aussi responsabiliser les patients, ne serait-ce qu'en les informant de ce que coûte leur traitement, parce que finalement, quand on va chez le pharmacien, on n'a aucune notion de ce que ça coûte. Et je pense que ça permettrait probablement... Moi, j'ai été amenée à m'occuper de patients qui ont reçu ce fameux traitement de l'hépatite C et qui, quelque part, étaient conscients de ce que ça impliquait et qui, du coup, avaient une responsabilisation un petit peu aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui finalement ne coûterait probablement pas très cher, simplement de dire aux patients, ben voilà, la sécurité sociale paye, ça vous coûte tant tous les mois. Et je ne sais pas si c'est éthique ou pas.
Mais, oui, alors, vous avez mille fois raison. Mon épouse, tous les matins, me disait, tu as la chance de voir Monsieur Van Rokkeghem, dis-lui qu'il faut qu'on sache combien coûte, etc. Bon, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à lui en parler. Plutôt. Voilà. Un
dernier mot, Antoine, parce que
je trouve que, en tout cas, travailler sur la responsabilisation du patient, sur la transparence des coûts, ce sont des éléments absolument fondamentaux parce que ce sont des éléments d'adhésion au système. Et au fond, un système de protection sociale, il a besoin de cette adhésion-là. Sinon, c'est un système payeur. Donc, rien ne le différencie d'une assurance pour laquelle on paye une cotisation. Mais un système de protection sociale va au-delà de l'assurance.
Voilà. Merci beaucoup, Antoine et Didier. Et pour conclure, je disais en introduction... le patient objet de soins ou sujet, et la conclusion, c'est que le patient est un sujet et doit être aussi un citoyen.